Le journal d'abord et Amélie Perrier pour ouvrir le bal comme tous les soirs. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec de la fraude dans le moteur.
Le constructeur Renault a-t-il caché volontairement les émissions polluantes de ses voitures? Une expertise accuse le groupe d'avoir développé des systèmes frauduleux. Le procès Balkany s'est ouvert, première audience courte et seul Patrick Balkany s'est présenté pour répondre de fraude fiscale. Son épouse Isabelle est hospitalisée. La campagne pour les élections européennes a débuté, mais difficile d'intéresser les électeurs, surtout quand les panneaux et les affiches électorales manquent à l'appel. Et puis une grève du sexe lancée par une actrice américaine pour protester contre des lois anti-avortement aux États-Unis. La météo, plein soleil demain encore. Rendez-vous à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
Allez, à 18h15, un jour dans le monde, en Irlande ce soir. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que il n'y a pas que le Brexit qui bouscule beaucoup de choses là-bas. On a voulu s'intéresser ce soir à cette nouvelle IRA qui a tué une jeune journaliste en avril, qui s'écrit sur les murs de Londonderry, dans une Irlande du Nord sans gouvernement, avec beaucoup d'incertitudes aussi 20 ans après les accords de paix. Nous sommes aussi au Soudan ce soir, où les jeunes n'entendent pas se laisser voler leur printemps démocratique. Et puis, 19h20, le téléphone sonne avec cette question pour vous faire réagir. Faut-il choisir entre faire des enfants et sauver la planète? Elle est presque taboue, cette question. Parce que quoi? On devrait parler des natalités, c'est ça? Nous sommes trop nombreux donc pour les ressources. Le sommes-nous réellement pour faire tourner un pays? C'est complexe, c'est pour ça qu'on aime cette question. Et on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le constructeur Renault a-t-il donc sciemment fraudé sur ses émissions polluantes?
Un rapport sans concession contre le groupe français. Une expertise commandée par les juges en charge du Dieselgate. Le Monde se l'est procuré. Comme Volkswagen, PSA ou Fiat Chrysler, Renault est aujourd'hui soupçonné d'avoir manipulé volontairement les résultats de ses tests et ses moteurs diesel pour minorer les émissions de NOx. Bonsoir Maxime Debs, vous allez nous expliquer sur les modèles incriminés, les mécanismes anti-pollution se désactivent parfois.
C'est ça, le rapport souligne que les systèmes de dépollution utilisés à l'époque chez Renault cessaient de fonctionner en dessous et au-dessus de certains seuils de température, des seuils pourtant fréquemment dépassés en hiver comme en été. Pour aboutir à ces résultats, deux modèles, la Renault Capture et la Clio 4, ont été disséqués. Et selon les experts missionnés par le pôle santé publique du TGI de Paris en 2017, le piège à NOx mis en place par le constructeur n'effectuait aucune purge sous les 50 km/h. Ennuyeux lorsqu'on sait que 50 km/h, c'est la vitesse maximale en ville et que c'est en ville que les gens sont le plus particulièrement exposés à ces émissions d'oxyde d'azote.
Maxime, quel intérêt aurait eu Renault à ce genre de pratique?
Il y a un intérêt financier, hein, comme toujours. Hein. Vous vous en doutez que mettre en place les systèmes de dépollution les plus élaborés, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et si PSA, qui visait la montée de gamme, a fait le pari très vite de se doter avant 2015 de la technologie la plus chère qui soit, ça n'a pas toujours été le cas chez Renault, selon un fin connaisseur du secteur. La marque aux losanges avait une obsession avant tout, des voitures pas chères. Renault alors a-t-il manipulé ses systèmes anti-pollution pour soigner ses prix? C'est ce que doit établir l'enquête et que semble donc appuyer ce rapport dévoilé aujourd'hui.
Merci beaucoup Maxime Debs. Et pour l'instant, Renault refuse d'admettre qu'il a enfreint les règles. L'Europe, ce sont des normes anti-pollution. C'est aussi une campagne pour les élections du 26 mai en France. La campagne officielle a démarré ce matin. 34 listes, 2686 candidats, c'est un record. Et puis un casse-tête dans les communes pour trouver de la place pour les panneaux, pour les affiches officielles également. Des efforts pas toujours récompensés, des listes n'ont pas imprimé d'affiches. Laurence Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes allé voir comment cela se passait dans le 18e arrondissement de Paris?
Et oui, une grande enquête de terrain, je plaisante. Une prise de pouls plutôt dans un arrondissement plutôt très politisé. Mais là, sur les flancs de la butte, pas un panneau. Est-ce que vous avez vu des affiches quelque part?
Ah non, moi je suis malvoyante en plus.
Elle est excellente.
Mais de toute façon, moi je vote écolo, alors voilà, si vous voulez, c'est tout. Alors je sais, la petite fleur jaune, je la verrai sur les bulletins.
Je poursuis mon chemin, je fais les bureaux de vote et toujours rien.
Hein, ils n'ont pas mis encore? Non, ils n'ont pas mis encore, non, pas du tout.
Du tout, hein, on est d'accord, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le quartier, j'en ai pas vu un seul.
Et vous, ça vous intéresse cette campagne?
Oui. Oui, oui, oui. Et je vais voter, bien sûr. Je fais barrage au FN.
Mais alors, comment on fait barrage au FN?
On vote pour le parti au pouvoir. J'aurais voté écologie, mais je crois que c'est une perte de vote pour rien. C'est comme ça que la France marche.
Alors, coup de téléphone à la mairie de Paris, 34 listes, et bien oui, ça prend beaucoup de place. Alors, ils ont décidé de n'en mettre qu'un bureau sur deux ou trois. J'entre dans un café. Vous avez l'impression que ces élections intéressent les gens?
Non, parce qu'on n'en parle pas. Enfin, je suis travaillé dans un café où, justement, les gens communiquent beaucoup entre eux, où personne m'en parle, d'ailleurs.
Ouais, je suis vraiment absolument pas dans le délire politique. Voter pour qui? Y a rien. Si le vote blanc prendrait vraiment une importance là, ouais, peut-être. Ouais.
On a affaire à une grande mascarade, vous voyez. Ils nous promettent la lune, mais ils n'ont pas la fusée.
Eh bien voilà, il reste encore 13 jours pour faire décoller la fusée.
Merci beaucoup Laurence Perron, on va donner des informations précises. Chaque liste doit être paritaire et compte 79 candidats. Pour l'instant, 74 sièges sont attribués à la France dans le nouveau Parlement européen. Il y en aura 5 de plus si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Et puis Marine Le Pen au Rassemblement National a effectivement proposé à Éric Zemmour de figurer sur la liste Rassemblement National, mais pas à la première place, comme l'affirmait l'Express. À la troisième place, affirme aujourd'hui la dirigeante Frontier. L'essayiste a décliné. Eux ont souvent été à la lisière entre la politique et les affaires. Les époux Balkany, Patrick, maire de Levallois-Perret en région parisienne, et Isabelle, sa première adjointe. Les deux sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et surtout des peines d'inéligibilité pour avoir caché au fisc un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
En direct du tribunal de Paris. Alors aujourd'hui, Patrick Balkany est arrivé seul au tribunal sans son épouse.
Oui, la haute stature de Patrick Balkany ne fuit pas les caméras. Isabelle, elle, n'est pas en état de comparaître, explique son avocat Pierre-Olivier Sûr. Elle est toujours hospitalisée depuis sa tentative de suicide du 1er mai. Elle a craqué face aux accusations relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle veut venir et faire face à ses juges, dit-il, pour demander un report de l'audience. Une demande appuyée par Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany. Il n'a pas pu préparer sa défense, plaide-t-il, entre la justice et sa femme. Il a choisi sa femme. Et les Balkany sont indissociables. Le président du tribunal retient surtout que la première adjointe à la ville de Levallois accepterait, le cas échéant, d'être jugée en son absence. Après avoir délibéré, le tribunal rejette les demandes de renvoi. La défense a aussi contesté la partie civile de l'association Anticor, qui préfère se retirer. Et puis Éric Dupond-Moretti se lève. Il demande au président du tribunal de se déporter. Il met en cause son impartialité à cause d'une décision qu'il a rendue et qui concernait un autre député. Demain, suite de l'examen de ces questions de procédure qui, à ce stade, ne semblent pas compromettre la tenue du procès.
Sarah Guibaudot au tribunal de Paris. Et donc, si ce procès va à son terme, il doit durer 6 semaines. Turbulence en vue chez Air France. La direction a présenté aujourd'hui aux représentants du personnel son plan de départ volontaire. 465 suppressions de postes parmi les personnels au sol. Orly et Marseille seront les escales les plus touchées, suivies d'Ajaccio et Bastia. Plus de précarité dans la fonction publique. Le projet de réforme du gouvernement est arrivé à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement abandonne son objectif de 120 000 suppressions de postes d'ici la fin du quinquennat en 2022, il veut aussi recruter plus de contractuels et permettre des ruptures conventionnelles. Une prime de précarité pourrait être instaurée pour certains CDD.
Eux sont plus que précaires, les étrangers malades sur le sol français.
Le défenseur des droits Jacques Toubon publie un rapport inquiétant aujourd'hui. Des droits fragiles et un accès aux soins compliqués, aussi bien pour ceux en situation régulière que pour les clandestins. La CIMAD, association qui vient en aide aux migrants, le constate tous les jours, impuissante face à des malades expulsés avant d'avoir été soignés, comme nous le raconte Nicolas Closeur.
Alors des cas de personnes qui sont gravement malades et qui ont été renvoyées, on en a eu écho de plusieurs, notamment des cas de personnes qui ont une sclérose en plaques, avec un traitement lourd auquel elles n'ont pas accès. Effectivement, ils rendent des avis défavorables au séjour de personnes vivant avec le VIH. Alors l'un des arguments qui a motivé cette réforme, c'est effectivement la lutte contre la fraude au droit au séjour pour soins. Sauf que, comme le souligne le défenseur des droits dans son rapport, comme le ministère de l'Intérieur l'indique dans son rapport au Parlement, le taux de fraude détecté est de l'ordre de moins de 1%. Sous les médecins de l'OFI, le taux d'avis favorable est au séjour est de 54%, alors qu'auparavant, soit jusqu'en 2016, ce taux était de 77% à l'échelle nationale. Donc il y a quand même une baisse de plus de 20 points dans l'accompagnement des personnes étrangères dans leur démarche.
Nicolas Closeur, bénévole à la CIMAD, il répondait à Béatrice Duguay. Faire valoir ses droits, cela passe aussi par le dépôt d'une plainte. Or, ce n'est pas une démarche facile pour beaucoup de victimes d'agression homophobe ou transphobe. Une étude publiée aujourd'hui affirme même que seulement 20% portent plainte. Or, selon cette même étude, plus d'une personne sur deux, se disant LGBT, lesbienne, gay, bi ou trans, l'une personne sur deux donc se déclare avoir été victime d'une agression au cours de sa vie. Alors à Marseille, des policiers sont formés aujourd'hui pour mieux prendre en charge ces victimes. C'est le reportage signé Isabelle Dore.
Devant une quinzaine de policiers et de responsables de commissariat, le major Jekel explique pourquoi les plaintes de personnes LGBT sont rares et comment mettre les victimes en confiance.
C'est jamais facile d'aller dans un commissariat et de dire « bon ben voilà, je suis gay, je me suis fait agresser ». Donc elle va dévoiler une partie de son secret. C'est là où je dis que c'est peut-être un peu plus délicat. C'est pas qu'on demande plus de bienveillance, plus de délicatesse, on demande peut-être une attention un peu plus particulière.
Respecter l'identité sexuelle choisie par les victimes, bien les orienter, être à l'écoute, le tout avec convivialité et confidentialité, les policiers ont bien reçu le message.
Il faut être pédagogique avec la victime, il faut lui expliquer que si on lui pose telle ou telle question, c'est parce qu'on veut caractériser l'infraction et pas parce qu'on veut rentrer ou qu'on juge son intimité.
Ça permet de faire savoir que nous on est ouvert et qu'on ne portera pas de jugement si une victime pousse la porte d'un commissariat justement.
Quel est le message que vous allez faire passer à vos hommes?
Avoir beaucoup plus d'attention et d'essayer de ne pas être maladroit.
C'est utile ce genre de formation?
Bien sûr, pour ceux qui ont des préjugés.
Est-ce que chez vous, il y a de gros machos?
Bien évidemment. Il faut qu'on leur dise, faut pas que tu fasses ça, t'es pas à l'aise. Est-ce que tu veux plutôt que je m'en occupe? C'est toujours la victime le plus important.
Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
La Suède rouvre l'enquête pour viol contre Julian Assange.
Le fondateur de Wikileaks arrêté à Londres. Le parquet de Stockholm espère le juger avant la prescription du crime en 2020, l'année prochaine, s'il n'est pas extradé d'ici là vers les États-Unis, car les Américains le réclament à Londres pour le faire comparaître pour piratage informatique pour avoir publié des documents classés secret défense. À l'étranger encore, Donald Trump reçoit aujourd'hui l'un de ses admirateurs européens. Ils ne sont pas nombreux. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, nationaliste, xénophobe, eurosceptique, trouve en pleine campagne pour les élections européennes une tribune exceptionnelle à la Maison Blanche. Pendant ce temps, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, s'est invité à une réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles pour tenter de trouver du soutien sur le dossier iranien. Washington accuse Téhéran de préparer des attaques contre les intérêts américains dans le Golfe. Plusieurs navires ont été victimes d'actes de sabotage encore assez mystérieux au large des Émirats. On reste aux États-Unis pour une grève du sexe lancée par une actrice, Alyssa Milano. Souvenez-vous, Madame est servie, Charmed. Elle proteste, Alyssa Milano, contre des lois très restrictives sur l'avortement. Plusieurs États sont en train d'en adopter, dont la Géorgie, dans le sud du pays. Là, le texte prévoit d'interdire l'IVG à partir du moment où l'on entend les battements de cœur du fœtus, en clair autour de la 6e semaine de grossesse. Alyssa Milano appelle au boycott de la Géorgie, un État où se tournent beaucoup de films et de séries. Et plus étonnant, elle appelle aussi à une grève du sexe. C'est la correspondance de Grégory Phillips.
L'actrice écrit ceci sur ses réseaux sociaux. « Tant que nous, les femmes, nous n'aurons pas le droit de disposer de nos corps, nous ne pouvons plus prendre le risque de tomber enceinte. Alors comme moi, abstenez-vous de toute relation sexuelle jusqu'à ce que nous retrouvions notre autonomie. » Alyssa Milano est connue pour ses engagements au sein du mouvement MeToo ou auprès du Parti démocrate, et celle qui tourne en ce moment en Géorgie une série pour Netflix a donc choisi de combattre ainsi la loi signée par le gouverneur Brian Kemp qui prévoit d'interdire tout avortement dès le premier battement de cœur du fœtus. L'appel d'Alyssa Milano est abondamment commenté ici, mais aussi critiqué par les mouvements féministes qui y voient une lecture machiste des relations sexuelles entre hommes et femmes. Quant à cette loi sur l'avortement en Géorgie, elle sera sans aucun doute contestée devant les tribunaux, comme dans le Kentucky ou au Mississippi précédemment. Mais les opposants à l'avortement veulent profiter d'une cour suprême à Washington, désormais dominée par les juges conservateurs, pour attaquer de plus en plus l'arrêt Roe versus Wade, qui en 1973 avait donné aux femmes américaines le droit d'avorter. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Le feuilleton Caster Semenyan en est qu'à ses débuts. L'Afrique du Sud prend parti pour son athlète hyper-androgène, condamnée à prendre un traitement hormonal si elle veut continuer à gagner des titres sur le 800 mètres femmes. Le pays va faire appel du jugement du tribunal arbitral du sport. Il va contester la décision devant un tribunal fédéral suisse. Que sera, sera. Et oui, des adieux en musique pour Doris Day, une voix et un physique de l'Amérique des années 50 et 60. Doris Day et ce tube planétaire, Que sera, sera. Chanteuse mais aussi comédienne, elle fut cette blonde émouvante dans L'homme qui en savait trop, Hitchcock, la mère d'un enfant enlevé par des espions venant du froid. Et là, elle chante à tue-tête ce morceau pour annoncer la libération de son fils. Doris Day, donc, vient de mourir, elle avait 97 ans. Son portrait est à retrouver sur franceinter.fr et puis également dans le journal de 19h.
Et oui, et donc, voilà.
Doris Day, bah oui, ça vous
Doris
émeut.
Doris Day, oui, un petit peu, sacré Doris. Amélie, n'allez pas trop loin, vous revenez pour Sous les radars.
Effectivement, des histoires de religion hein, ce soir. Chrétiens et musulmans s'affrontent dans un Sri Lanka meurtri par les attentats de Pâques. Le Pakistan, lui, nomme un comité de scientifiques pour décider du début du Ramadan pour les 5 prochaines années. Les religieux, évidemment, s'insurgent. Et puis en Inde, on vous racontera l'histoire de deux fleuves, le Gange, sacré et pollué, et la Chambal, maudite, mais très pure.
Allez, il sera autour de 18h37. Amélie, à tout à l'heure. Ce soir, nous sommes en Irlande. Essayez de comprendre ce qu'est cette nouvelle IRA qui fait parler d'elle sur fond d'économie en berne à Londonderry. Notamment, nous sommes au Soudan avec les jeunes Soudanais qui ne lâchent pas leur révolution de printemps. Et puis à 19h20, le téléphone sonne. Avez-vous entendu parler des Jinx? C'est un mouvement né aux États-Unis qui a une résonance dans nos pays européens aussi. Green Inclinations No Kids, tendance écolo, pas d'enfants. Faut-il donc lier démographie et environnement? Est-ce qu'on fait une grossière erreur? Faut-il réfléchir à faire moins d'enfants? Et si oui, attention à ce que ça implique. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Jean-Pierre Hameau, nous avons beaucoup apprécié le soleil aujourd'hui.
Effectivement,
alors,
Fabienne.
Est-ce qu'on le garde ?
Oui, mais avant, notre pays est bien sous haute protection anticyclonique. D'ailleurs, nous avons mesuré ce matin 1040,7 hectopascales à Dunkerque, ce qui constitue un record national pour un 13 mai. Et demain, on retrouvera exactement le même type de temps, du soleil et un vent sensible de secteur nord-est. Seul l'extrême sud-est et la Corse conserveront un ciel nuageux, avec en prime quelques averses l'après-midi. Côté température, les maximales seront quasi stationnaires, fraîches pour la saison dans la moitié nord et comprise entre 14 et 19 degrés, plus 12 dans le sud, comptez 20 à 25 degrés. Et puis ce temps ensoleillé va rester au programme jusqu'à jeudi. Une dégradation orageuse prendra le relais vendredi et pour le week-end prochain.
Allez, on n'y est pas encore, Jean-Pierre Hameau, merci beaucoup.